Vous écoutez RTL. Quelle curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Dans cette émission, vous le savez, on aime les sagas musicales, surtout quand elles sont racontées par Éric Jean-Jean, l'animateur du Grand Studio.
On adore Éric Jean-Jean.
Sur RTL, le samedi de 15h à 23h et du Drive sur RTL 2. C'est tous les jours de 16h à 19h. Salut Éric.
Bonsoir les amis, comment ça va?
Salut Éric, bien, super.
Très heureux de vous avoir la semaine dernière. On a découvert l'histoire de Freddie Mercury ensemble. Aujourd'hui, on s'attaque, vous l'avez compris, au Pink Floyd grâce à la mise en onde de Sébastien. Alors, le groupe va fêter ses 50 ans, les 50 ans de son premier album, ouais. On en parlera. Mais il y a un petit truc qui nous a donné aussi envie d'en parler, un truc qui est dans l'actualité avec le bassiste Roger Waters qui vient d'annoncer un projet très, très symbolique. Qu'est-ce qu'il veut faire?
C'est-à-dire qu'il a décidé de faire un concert de Wall sur la frontière mexicano-américaine, tout ça pour lutter contre Trump, dont il avait dit dans une conférence de presse que c'était un port. Enfin bon, voilà. Ouais. Il est assez politisé, ce qui est assez chouette d'ailleurs, parce que normalement il sort pas trop du bois, mais là en l'occurrence il le fait.
Et c'est vrai que ce sera particulièrement symbolique d'écouter The Wall devant cette séparation qui existe déjà d'ailleurs et que Trump veut allonger. On écoute The Wall.
Raconte quoi cette chanson des Pink Floyd?
En fait, c'est d'abord un opéra qui a été inventé, qui sort en 1979. Ça fait partie des albums les plus vendus au monde, un opéra rock qui traite du problème de l'isolement. Ça commence en 1977 à l'occasion d'un concert à Montréal. Il y a un fan qui est sans doute un peu défoncé, un peu bourré, qui les empêche de jouer. Roger Waters crache en sa direction. Gilmour ne revient pas au rappel et ils se demandent comment ils peuvent se protéger des fans et ils vont construire ce mur entre eux et les fans. C'est pas des mecs sympas les Pink Floyd, hein. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est pas tellement des mecs sympathiques. Ouais. Et donc, c'est une histoire qui raconte Pink, l'histoire d'un anti-héros dont le père est mort à la guerre, qui est surprotégé par sa maman. Et l'école veut le faire entrer dans le moule. Et pour répondre à votre question, Sidonie, au fait, c'est ça. Hey, teacher, leave the kids alone. Laissez-nous tranquilles. Ouais. On veut pas rentrer dans le moule.
Ah, moi, j'ai en mémoire le clip qui avait été fait à l'occasion de la sortie de cette chanson qui est assez géniale, qui est un court métrage, hein, qui raconte vraiment l'histoire de gamin dans une école à l'anglaise, etc.
Et puis il y a eu Alan Parker, évidemment. Bob Geldof, ouais. Qui jouait le rôle de ce fameux Pink, ouais. Un type qui va devenir complètement dingue et qui va finir enfin par casser le mur qui le sépare des autres.
Alors on va raconter ensemble l'histoire de Pink Floyd et remonter à l'origine. On est en 1976, ils se rencontrent où et comment les
Alors,
Pink Floyd?
Un petit peu avant, 1965, ça se passe.
Oui, j'ai 66. Oui, 65.
Ça se passe à Londres, ils commencent par faire plusieurs groupes. Ouais. Il y a Syd Barrett et David Gilmour qui sont des copains. Nick Mason qui joue avec Roger Waters, Richard White. Ça, c'est les Floyd. Il faut savoir qu'en règle générale, on a l'air de penser que tous les groupes de rock sont ce qu'on appelle des working class heroes, comme Lennon par exemple, c'est-à-dire des gosses de pauvres. Bah, pas du tout. Syd Barrett, son papa était médecin. Dave Gilmour, son père était maître de conférence. Mm-hmm. Nick Mason, il était réalisateur de documentaires. Roger Waters, c'était le seul. D'ailleurs, comme Pink, dont le papa était mort à la guerre, il a grandi avec sa mère, et Richard Wright, qui est le clavier, son papa était biochimiste. Bref, ils sont dans des études, ils sont tous plus ou moins dans des écoles d'ingénieurs, et c'est là qu'ils se rencontrent.
Alors, ils vont former plutôt un des fils de Bourges, quoi.
Ah, mais gravement des fils de Bourges. Et surtout
des carrières de financiers, de banquiers, de...
Oui, notamment Richard Wright, qui lui faisait Polytechnique à Londres, en Angleterre, voilà. D'ailleurs, leur premier concert, ils vont les jouer dans les grandes écoles et dans les écoles d'architecture.
Mais ils se rencontrent comment, alors, à la musique, au cours de chant?
Ils se connaissent depuis longtemps, je parle des trois premiers, c'est-à-dire Water, Barrett et Gilmour depuis Cambridge, et puis les autres se rencontrent un petit peu alors qu'ils sont l'un à Polytechnique, je parlais de Wright, l'autre Mason qui traîne un peu avec tous les intellos musiciens dans les bars un peu branchouilles, et puis ils vont d'abord former deux groupes séparés et puis à un moment ils vont se réunir pour fabriquer le premier projet Pink Floyd.
Alors ça s'appelle The Pink Floyd Sound, le premier nom du groupe. Pink Floyd, ça vient d'où?
On a souvent coutume de dire que c'est les Flamants Roses, bah pas du tout, ça vient de deux musiciens de blues, c'est un hommage en fait, Pink Anderson et Floyd Council, deux musiciens, et c'est comme ça qu'ils ont trouvé leur nom.
Et le premier album de Pink Floyd sort le 5 août 1967. On en écoute un extrait.
I'm in between a second scene. The fight's between the blue you once knew.
Astronomy Domain, j'espère que je prononce bien, tiré de l'album The Piper at the Gates of Dawn. C'est un succès ?
C'est un succès d'estime, c'est pas énorme.
C'est un succès après coup ?
Oui, ça leur permet de faire une première partie de Jimi Hendrix, notamment, voilà, de commencer à marcher un peu. Et c'est surtout un album qui a été intégralement écrit par Syd Barrett, qui est le premier chanteur du groupe, qui quittera assez rapidement.
Mais alors, justement, malgré ce succès, Syd Barrett, lui, il va pas très fort dans le groupe.
Non, il va
pourquoi
pas fort. Bah, il faut remettre dans le contexte, hein. On est dans la deuxième partie des années 60. Le LSD n'est pas encore interdit, c'est même quasiment conseillé pour être créatif.
Ah
à
oui.
un moment, bah oui. Et donc à un moment, bah, Syd Barrett, il en prend, mais il en prend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis il va rester perché. Un jour, il va arracher les cordes de sa guitare,
en plein concert.
Ouais, ouais. Et donc il est pas fiable, il vient pas
ça
au
marche
concert.
Moins bien, ouais.
Non, ça marche beaucoup moins bien. Et surtout, il travaille plus. Donc à un moment, ils ont besoin de quelqu'un. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont l'idée géniale d'appeler leur copain guitariste qui s'appelle David Gilmour, qui n'était pas dans la version initiale.
Ah, il était pas dans le premier.
Non,
groupe.
Il est là D'accord. pour jouer ce que peut plus jouer Syd Barrett et pour chanter. Ils vont travailler un petit peu ensemble avec Syd Barrett pendant 2-3 mois, et puis à un moment, le groupe décide de virer Syd Barrett, qui ne redescendra jamais.
David Gilmour, qui va devenir l'un des meilleurs guitaristes de l'histoire du rock.
Ouais,
grâce à Pink Floyd.
Il a oui, parce que c'est.
Enfin, grâce
c'est
à lui, à son travail,
des,
mais.
Oui, c'est l'un des plus grands guitaristes de tous les temps. Il a même été nommé meilleur guitariste sur une marque de guitare particulière, etc. Devant Hendrix, devant Clapton. c'est un immense
classe.
Guitariste. Mais écoutez, Floyd, si vous replacez dans le contexte, 1965, quand ça commence, ils ne savent pas trop où ils vont. Et puis arrive la fin des années 60, il s'est passé le fameux Abbey Road des Beatles, le fameux Sgt. Pepper, et ils apprennent à travailler dans les studios pour fabriquer des sons qui n'existent pas, et ils vont inventer le rock psychédélique.
D'accord, ils inventent une nouvelle forme de musique, les Pink Floyd.
Oui, parce qu'ils rencontrent un prof à Polytechnique, un prof de Richard Wright, qui fabrique des espèces de projecteurs qui projettent contre le mur des effets de couleurs, c'est très, très années 70.
Ouais.
Et en fait, ils composent la musique, justement, en regardant ces couleurs qui sont supposées représenter d'accord. ce qu'on voit quand on prend
tout
du LSD.
Oui, d'accord.
C'est horrible, parce que le début de carrière de Floyd est vraiment dans la drogue. Et Syd Barrett, je vous dis, il va rester perché, il finira jardinier, il mourra d'un cancer du pancréas quelques années après, mais surtout il est plus capable de faire de la musique.
Ouais. Un titre va booster la notoriété des Pink Floyd et en faire un groupe majeur, c'est Echoes, il dure 23 minutes, on va peut-être pas l'écouter en entier, mais en tout cas il y a une légende qui est rattachée, on vous la raconte tout de suite sur RTL. C'était Shine On You, Crazy Diamond des Pink Floyd sur RTL avec Eric Jean-Jean et Sidonie Bonnet. On continue de vous raconter l'histoire de ce groupe mythique. Vous l'aimez bien ce groupe, Eric ?
C'est un de mes groupes préférés. Alors j'adore les écouter un peu moins.
Ils sont bien en concert, non ?
C'est
planant.
Il faut être dans l'esprit, c'est planant. C'était pas trop mon truc. Moi je ne suis pas un super planeur.
On retrouve leur histoire tout de suite.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Money. Get back.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Bienvenue sur RTL. Les curieux.
On écoute et on vous raconte l'histoire des Pink Floyd sur RTL à l'occasion des 50 ans de leur premier album et de la sortie d'un livre signé Nick Manson aux éditions Duchesne. J'ai dit quoi ?
T'as dit Manson parce qu'il y a écrit Manson sur ta fiche que j'ai pu apercevoir et j'ai oublié de te
c'est
dire.
C'est moi qui ai préparé l'interview, donc c'est une faute de frappe.
C'est dit Thomas Jane Manson.
Rappelez-moi de me mettre un piège, on va pas chez l'interview, Thomas.
Donc c'est rien à voir avec Jane.
Rien à voir. Merci, Eric Jean-Jean.
J'avais noté de te le dire, en plus j'ai oublié, pardon. De vous le dire, pardon.
Oui.
Vous nous racontez les anecdotes et l'histoire des plus grands tubes de Pink Floyd. On est au début des années 70 et il y a un titre qui va asseoir définitivement leur notoriété, c'est Echoes. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce titre ?
Echoes, d'abord, il fait 23 minutes et c'est calé sur les 23 dernières minutes du film de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça veut dire que si vous écoutez Echoes à partir de 23 minutes avant la fin de l'Odyssée de l'espace, bah vous verrez une autre version de ce film. C'est la version avec la bande-son signée Pink Floyd.
Ça a plu à Stanley Kubrick ?
Bah assez, en tout cas, puisqu'il va leur proposer de faire en 1970, d'utiliser en tout cas une chanson pour le film Orange Mécanique. Et le groupe va refuser parce qu'il trouvait que le scénario n'était pas top. Bon, ils diront après qu'ils se sont gourés. Bon, bah, ce sont des choses
ça
qui
arrive.
Mais il est pas
ça peut arriver. Ouais, des fois, on refuse des grands rôles aussi quand on est comédien. Pink Floyd, c'est un groupe mythique, évidemment. et notamment grâce à cette chanson. On va la réécouter rapidement. On l'a écouté in extenso tout à l'heure, donc je me permets de l'interrompre. On est en mars 73. L'album s'appelle The Dark Side of the Moon.
Ouais.
Pourquoi ce titre ? C'est marrant.
Une fois l'album fini, ils ont réuni tous ceux qui avaient travaillé ou qui avaient gravité autour du groupe pendant l'enregistrement. Ça se passe à Abbey Road, c'est-à-dire les mythiques studios utilisés par les Beatles. Mm-hmm. Et donc, il y a même un Beatles qui est passé, bref, et ont demandé à tout le monde de parler tout ce qui leur venait, c'était l'époque, hein, tout ce qui leur venait à la tête. Et à un moment, il y a un technicien son qui est tout seul dans ce studio et qui dit « Il n'y a pas de face cachée de la lune. There's no dark side of the moon. » Et il m'a dit « Mais j'ai bien ralenti le truc. » Et voilà, c'est comme ça que l'album s'est appelé.
La pochette, elle est mythique aussi de cet album.
Elle est mythique aussi, elle est faite par un type qui a fait plusieurs pochettes, qui est un artiste britannique, qui s'appelle Storm Torgerson. Et en fait, c'est ce fameux triangle qui est traversé par de la lumière et qui se transforme en arc-en-ciel.
Oui, ce qu'on appelle un prisme.
Ouais, c'est un logo hyper connu, c'est un des logos les plus connus de l'histoire du rock.
Et cet album, c'est un album à record qui est resté dans les charts pendant des
deux ans
des
et quasiment huit mois. C'est le troisième album le plus vendu de tous les temps, après Michael Jackson, et un album d'AC/DC. Il est resté 1007 semaines dans le top 20 aux États-Unis. C'est un énorme carton.
Combien ils en ont vendu
1007 semaines, ça fait, j'ai calculé, hein. Ça fait deux ans et quasiment 8 mois. Voilà. Et cette chanson, l'ingénieur du son de cette chanson, ça a été un certain Alan Parsons, vous vous rappelez, Die in the Sky, etc.
Ouais,
c'est lui
sûr.
Qui fait l'ingénieur du son. Et le début de Monet, ce sont des caisses enregistreuses qu'il est allé enregistrer en vrai et qu'il a mis les unes sur les autres au mixage pour que ça donne ce son.
Pour se rendre compte, les Pink Floyd dans l'histoire du rock, c'est combien de millions d'albums vendus ?
C'est 300 millions d'albums vendus, dont je crois quasiment 80 aux États-Unis. C'est un énorme groupe. Et puis c'est surtout un groupe qui remplit les stades beaucoup avec des tournées concept.
Alors après cet album qui a cartonné, un autre album, Shine New Crazy Diamond, qui est un peu particulier.
Ouais, c'est un album. Alors Shine New Crazy Diamond, c'est une chanson qui est faite en deux temps, qui commence l'album et qui la finit. C'est un hommage de David Gilmour à son copain Syd Barrett qui est resté bloqué, je vous
le
disais.
Le guitariste à l'ancien chanteur.
Ouais. Et en fait, avec sa guitare, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce son qui fait ça, c'est l'absence selon le guitariste. Et il y a plusieurs chansons qui lui sont consacrées, notamment Wish You Were Here, qui est le nom de l'album. En fait, Shine On You, c'est le nom d'une chanson.
Ouais.
Et c'est une chanson, donc, Wish You Were Here, qui emprunte les sons d'une chanson solo de Syd Barrett qui s'appelait It's In You.
On écoute. Eric, Jean-Jean, pendant cette chanson, c'est un hommage à Syd Barrett qui est venu les voir en studio.
Ouais, c'est horrible l'histoire, c'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler sur un morceau face à une console. Et avant, il y a un type qui arrive derrière eux, il n'a pas trop de cheveux, il est un peu empâté et ils ne reconnaissent pas Syd Barrett, voilà, qui a un voile devant les yeux. C'est plus leur copain, ils l'ont perdu.
Eric Jean-Jean, il y a un emblème qu'on retrouvait souvent dans les concerts des Pink Floyd. C'est un gros cochon gonflable. Ça sent d'où ça ?
Alors, ça a été construit par les industries Zeppelin, c'est-à-dire ceux qui faisaient le fameux Zeppelin.
Ouais.
Ça sort sur un album qui sort en janvier 1977 qui s'appelle Animals. Et c'est un peu comme les fables de La Fontaine, c'est-à-dire qu'ils font une critique en partant d'un livre de George Orwell qui s'appelle La ferme des animaux.
La ferme des animaux.
Et donc, ils font une critique de la société au travers des fameux animaux. Et ce fameux cochon, quand ils ont frit la pochette de l'album, la photo de la pochette, en fait, le cochon, il est accroché à un filin, mais il est monstrueux, hein, et il est énorme, le filin va casser, il va falloir que le Royal Air Force le rattrape et le ramène, mais on le retrouve souvent, le cochon.
Hein, le Royal Air Force aux trousses d'un cochon dans le ciel.
Un cochon gonflable.
L'image est belle.
Allez, les années 80, en revanche, ce seront celles du déchirement, où on raconte comment les Pink Floyd se sont séparés et réparés. Ce sera juste après les infos sur RTL.
Et puis, dans la seconde partie de l'émission, le portrait d'une femme fantastique, Lucie Aubrac. Elle a disparu il y a 10 ans à 94 ans. Elle s'est battue pour la liberté toute sa vie, pour celle de son mari et celle du peuple français aussi. Tout de suite, c'est l'heure des infos. RTL, il est 21h.
Belle soirée à l'écoute de RTL. 21h, 3 minutes, l'heure de retrouver Thomas, Sidonie et Eric.
Merci beaucoup.
Merci
Julien. Et on vous retrouve, nous, tout à l'heure dans RTL Grand Soir avec Agnès Bonfillon et Christophe. Christophe Paco.
À tout à l'heure.
RTL.
À tout à l'heure.
Jusqu'à 22h, la curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue aux curieuses, bienvenue aux curieux. On est très heureux si vous nous rejoignez sur RTL à 21h04. On est ensemble jusqu'à 22h.
Au programme tout à l'heure, le destin d'une femme forte, Lucie Aubrac, cette résistante de la première heure, a disparu il y a 10 ans. On lui rend hommage dans la curiosité. Et l'on vous raconte avec nos confrères du magazine Notre Temps ces années de planque, de cavale, de combat pour la liberté et de témoignages.
Tout de suite, on continue de dérouler l'histoire des Pink Floyd sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
No more time.
Sidonie Bonnec.
The grass was greener. The light was brighter.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Time is gone, the song is over. Thought I'd something more to say.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Et pour nous faire découvrir cette saga Pink Floyd, Éric Jean-Jean, l'animateur du Drive sur RTL2, c'est tous les jours de 16h à 19h. Et puis le grand studio RTL le samedi de à 15h et à 23h.
Exactement, pas tromper, pour l'intégrale avec quelques bonus en plus.
Ah, c'est génial. Alors les Pink Floyd fêtent cette année, en août, hein, on l'a dit, le 50e anniversaire de leur premier album. Alors du coup, il y a forcément un peu de marketing. Qu'est-ce qu'on va voir arriver sur le marché là, le mois prochain?
Il y a déjà ce fameux livre voilà, oui. Qui vient de sortir du batteur. Alors j'ai essayé de vous le voler hier, mais j'ai pas eu le temps de le lire parce que c'est quand même un gros pavé. Donc j'ai peut-être raté quelques anecdotes depuis l'intérieur. Parce donc que c'est le seul, hein, le batteur qui soit resté du début
Nick Mason.
À aujourd'hui. Et puis voilà, il y a aussi l'intégrale qui est ressortie remasterisée avec en plus dans un gros coffret, c'est assez chouette, des images inédites et un documentaire intéressant. Ça, je conseille à tout le monde si vous voulez découvrir ou si vous adorez comme moi Pink Floyd.
Alors Nick Mason, dans son livre publié aux éditions du Chêne, forcément, il raconte ce début des années 80 où le groupe se déchire. Pourquoi ça va plus entre eux?
Il y a des histoires d'ego surtout. Hein, c'est-à-dire que depuis quelques temps, Roger Waters, il a pris le pouvoir sur le groupe. C'est lui qui écrit les textes depuis The Dark Side of the Moon. C'est lui qui dirige la musique. Et puis à un moment, Dave Gilmour, qui est un immense musicien, il a aussi envie de voler de ses propres ailes. À un moment, Richard Wright, qui est le clavier, il va partir parce qu'il en peut plus. Et à un moment, il y a un album qui sort qui s'appelle le bien nommé The Final Cut, c'est-à-dire c'est la fin. Et cet album, d'ailleurs, en dessous, il y a marqué une œuvre de Roger Waters interprétée par Pink Floyd. Il n'y a qu'une seule chanson écrite par Gilmour. Il est question alors de politique, hein, les Malouines à l'époque, rappelez-vous, la guerre des Malouines de Margaret Thatcher.
Entre l'Angleterre et l'Argentine.
Ouais, un album très engagé. Et en 85, Roger Waters décide qu'il en a marre et qu'il quitte Pink Floyd et que donc c'est la fin du groupe.
Ah, il pense vraiment qu'après lui, plus rien?
Oui, parce qu'il pensait qu'il était le patron et que rien ne lui survivrait.
Et puis finalement, l'année suivante, David Gilmour et Nick Mason relancent les Pink Floyd avec cet album. Learning to Fly, c'est un extrait de l'album A Momentary Lapse of Reason.
Je vous ai laissé tous les titres.
Ah, vous avez vu, c'est beau. Ouais. Et je le fais bien. Hein.
En loose day, là, comme ça,
bien.
Paf, ça passe très bien.
Mais c'est super, les Pink Floyd, sans Roger Waters.
Et puis, du coup, Richard Wright, le clavier qui revient, sauf que, évidemment, Waters, il n'est pas content.
Donc, ça veut dire quoi? Bataille juridique?
Énorme procès. Il considère qu'on n'a pas le droit d'utiliser le nom de Pink Floyd sans lui. Et il va perdre. Résultat des courses, ça va marcher, y compris sans lui, ce qui n'est pas terrible pour son ego.
Eh oui, et ça, c'est vrai de toutes les années 90, c'est-à-dire que c'est une décennie, finalement, où les Pink Floyd restent un groupe de rock mythique au sommet.
Ouais, c'est une décennie, j'irais même jusqu'à dire, de concerts gigantesques et de stades. Ils ont sorti entre 94 et 95 deux albums, Division Bell et puis Pulse. Et ce qui est rigolo, c'est que dans Division Bell, notamment, c'est la femme de Gilmour qui signe les paroles de cette chanson. Elle s'appelle Polly Sanson. Bref, il réussit à se passer de lui. C'est fini.
Et dans cet album, Division Bell, on est en 1994, il y a High Hopes.
The grass was green.
Ça, c'est un chef-d'œuvre.
Chef-d'œuvre absolu.
On va l'écouter un peu plus longtemps. Tiens.
High Hopes des Pink Floyd sur RTL, extrait de l'album The Division Bell. On est en 1994. Avec ça, les Pink Floyd vont retrouver les sommets.
Exactement, et surtout remplir des stades. Alors, de son côté, Roger Waters lui aussi remplit les stades, hein, sauf qu'il ne vend pas de disques, parce que les disques en solo de Roger Waters, ça ne marche pas. Il y a même une astéroïde en 97 qui sera nommée Pink Floyd en hommage au groupe, l'astéroïde 19367, voilà.
C'est chic.
On est enchanté, ouais. Hein, ça
il ne faudrait pas qu'elle nous tombe astéroïde. Dessus, juste. Mais
non, restez où vous êtes, madame, hein, vous êtes très bien chez vous. Donc, tournée mondiale, et puis le 17 janvier 1996, les Pink Floyd qui entrent au Rock and Roll Hall of Fame. Alors, ouais. Peut-être qu'il faut rappeler d'abord ce que ça représente pour un groupe, ça.
Imaginez les plus grands groupes de rock de tous les temps. Ça va avec Elvis Presley aussi, mais aussi les Stones, les Beatles. Et c'est être reconnu par des journalistes de rock, par le public, avoir vendu beaucoup de disques. Bref, c'est le panthéon, quoi, ouais. D'être
rock and roll. Qui choisit de faire entrer un groupe?
Des journalistes. Ce sont des journalistes spécialisés.
C'est un vote de journalistes spécialisés.
Ouais, ça commence par une sélection. Après, il y a un jury. C'est comme les Oscars, en fait.
Oui, donc c'est une vraie reconnaissance internationale, ouais, pour les Pink Floyd.
C'est énorme. Ouais.
Pour l'occasion, Roger Waters revient ?
Non, il ne sera pas là. Il ne va pas venir.
Il n'est pas invité ou il ne vient pas ?
Si, il est invité, évidemment, mais il ne va pas venir. Il faudra attendre quelques années encore, quasiment 9 ans, pour les revoir ensemble une fois sur scène.
Ouais. Alors, vous nous disiez à l'instant que les Pink Floyd, c'était des concerts gigantesques. Rapidement, tout à l'heure, Éric Jean-Jean, vous nous avez raconté que vous aviez assisté à certains de leurs concerts et que ce n'était pas si génial que ça. Décrivez-nous, ça se passe comment ? Ils arrivent comment sur scène ?
Alors, en l'occurrence, celui que j'avais vu et qui était le plus impressionnant, c'était devant l'esplanade du château de Chantilly. Vous imaginez une grande scène, comme ça, monstrueuse, avec des effets de lumière, un œil, je crois, à l'époque. Ils arrivaient avec un hélicoptère, enfin, c'était un truc de dingue. Un son en quadriphonie, c'est-à-dire que le son se baladait comme ça, il y avait des enceintes un peu partout, c'était déjà technologiquement formidable, c'était les années 90, hein. Ouais. C'était Division Bell Tour, si ma mémoire est bonne. Et donc, voilà, c'était vachement bien, mais les morceaux sont assez longs, c'est des trucs assez planants. Depuis le début, hein, Pink Floyd, c'est pas des trucs pour taper dans les mains.
Hein. Le public reste plutôt assis, par exemple, dans le concert
allongé.
J'étais assis, je ne pratique pas les stupéfiants. Il y avait plein de gens autour de moi qui fumaient des trucs qui sentaient bizarrement. Ouais. Et donc, c'est un truc, ouais, un peu ambiant. Et de temps en temps, ça se lève, ça tape dans les mains sur The Wall. Mais franchement, c'est pas un groupe qui fait. C'est pas Robbie Williams, quoi, par exemple. Ou c'est pas les Rolling Stones, quoi. C'est autre chose. Mais en fait, le rock psychédélique, et notamment ce groupe-là, c'est un groupe de musique pour la tête. C'est pas un groupe de musique pour le corps. Par exemple, le blues ou les Rolling Stones, c'est la musique pour le corps.
Qui prend les tripes.
Qui prend les tripes et on a envie de danser comme ça. Les groupes de rock, généralement, AC/DC, c'est pour le corps. Pink Floyd, c'est plutôt de la musique intello, mais d'ailleurs, ce sont des intellos.
Oui, musique cérébrale. C'est en juillet 2005 que le groupe se reforme. Le temps d'un concert à Londres, l'effet sur les ventes sera vertigineux. A tout de suite dans la curiosité. The Wall, les Pink Floyd sur RTL, et on continue de découvrir leur histoire. Ça va être la fin de leur histoire, évidemment, même si le groupe a continué de sortir des albums. On va vous raconter l'histoire d'un concert où enfin ils étaient tous ensemble sur scène. Restez avec nous sur RTL.
RTL, 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité de découvrir l'histoire des Pink Floyd à l'occasion des 50 ans de leur premier album et de la sortie notamment d'un livre écrit par le batteur Nick Mason. C'est aux éditions Duchesne. Nous sommes avec Éric Jean-Jean, ce Nick Mason dont on parle depuis tout à l'heure. Lui, il a connu toutes les époques des Pink Floyd.
C'est le seul.
C'est le pilier.
C'est le pilier, voilà. Bah, d'ailleurs, c'est le batteur. Hein, donc voilà, c'est le seul en fait qui était depuis le début de Pink Floyd et qui est encore vivant aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, enfin, je sais pas si vous me poserez la question, mais il travaille toujours. Il travaille toujours. Il fait toujours des.
Bah, je vais pas vous la poser du coup.
Il travaille avec Roger Waters. Voilà, il y a un album qui devrait sortir. En 2017.
Ah, c'est marrant ça. Donc il y a des alliances ou des amitiés évolutives.
Rappelez-vous Thomas de la séparation de téléphone avec Aubert et Colaca et Mariano et Louis Bertignac.
Et Louis Bertignac, c'est vrai. Donc ça c'est l'histoire des groupes de rock en fait.
Exactement.
Ouais. Nick Mason qui a donc vécu ce concert du 2 juillet 2005. Pourquoi c'est une date majeure pour les fans des Pink Floyd? C'est un concert où tout le monde s'est réuni?
C'est pour ça qu'on aime ce concert, c'est-à-dire que ça faisait des années qu'ils étaient fâchés, et pour la bonne cause. Live 8, en fait, c'était 8 concerts qui avaient été joués dans chacun des pays du G8 ce même jour, donc à bien à Berlin, etc. Et là, en l'occurrence, c'était à Hyde Park à Londres, et pour essayer d'aider à effacer la dette des pays du tiers monde, voilà. Et c'était pour faire pression sur les pays les plus industrialisés et les plus riches, donc les fameux pays du G8. Et donc pendant ce concert qui se passe, attends, je suis en train de chercher la date.
2 juillet 2005.
très bien. Voilà, le groupe, pour la première fois, va se retrouver avec tous ses membres. Et pour la première fois, Roger Waters décide de répéter avec ses copains, de jouer avec eux. D'ailleurs, ça va être un concert absolument incroyable qui va faire exploser les ventes de The Wall et de Wish You Were Here. Notamment.
Alors, on va en parler de ça, des ventes qui explosent. Mais d'abord, un petit extrait de... Extrait de ce concert mythique de juillet 2005 où tous les membres du groupe des Pink Floyd se retrouvent enfin sur scène. Et vous avez commencé à nous le raconter, Éric Jean-Jean, avec un effet aussi explosif sur les ventes.
Absolument dingue. Il y aura 3 millions de spectateurs pour ce concert. Il y aura aussi un hommage pendant ce concert à Syd Barrett, donc le premier chanteur disparu. Mmh. Et donc, les ventes de The Wall vont être multipliées de 3600%. Et
combien ?
Wish You Were Here. 3600%.
Ah oui.
C'est colossal. C'est et puis, Wish You Were Here, donc ce fameux album hommage à Syd Barrett, lui, c'est 2000%. Bref, c'est colossal. Et tout le monde se met à rêver etc. Et finalement, les types vont finir par dire, je sais plus lequel, a dit « Ah bah oui, c'est comme si j'avais passé la nuit avec mon ex, c'était chouette, mais il faut pas continuer. »
D'accord, donc ça c'était la fin des espoirs des fans des Pink Floyd. Et puis je crois que David Gilmour, il prend une décision sur cet argent, cette manne née de ce concert Live Aid, parce que c'est un concert caritatif.
Ouais.
Qui d'un seul coup leur apporte énormément d'argent puisque les ventes explosent. Qu'est-ce qu'ils décident de faire ?
Je crois qu'ils veulent donner à des associations caritatives, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas gagner d'argent sur ce truc-là, ils en ont assez avec les droits d'auteur, les concerts, etc. Ouais. Ouais.
Et puis la mort va rattraper le groupe des Pink Floyd, Syd Barrett disparaît. Comment réagissent les autres membres du groupe ?
Il va y avoir un concert hommage au Barbican Center de Londres. Rick Wright, Roger Waters, Dave Gilmour, Nick Mason... Tout le monde est là, sauf que Roger Waters ne chantera pas avec ses copains.
Et Pink Floyd interprète ce jour-là Arnold Lane. On écoute. Arnold Lane had a strange. On the wall hung a tall mirror, distorted view, see-through baby blue. He dug it on one lane, it's not the same. Arnold Lane, l'une des chansons hommage à Syd Barrett. C'est quoi l'histoire de cette
chanson? C'est une chanson qui fait partie du premier album donc, dont on fête les 50 ans cette année. Et ça raconte l'histoire d'Arnold Lane, qui est un travesti et qui a des strange hobbies, c'est-à-dire des hobbies étranges. Son truc, c'est d'aller piquer des sous-vêtements et des vêtements féminins pour pouvoir les porter. Donc il les pique dans les rues de la campagne anglaise pour porter les soutiens-gorge qu'il a volés et porter les robes des dames. Voilà. Ouais. Arnold Lane est un personnage étrange qui a été très bien chanté d'ailleurs à son début de carrière par Étienne Dao, qui est un grand fan de Floyd.
Oui, et j'ai vu aussi que David Bowie, ouais. Parce qu'en cherchant des extraits de ce concert mythique de 2005, je suis tombé sur un extrait d'un autre concert des Pink Floyd, David Bowie, qui était venu chanter avec eux sur ce titre, Arnold Lane, et il est lui aussi magnifique.
Bah, Bowie, s'y connaît en travesti. Hein. The Man Who Sold the World, rappelez-vous de la pochette, il est habillé en robe hein, sur la pochette, David Bowie.
On parlait de la disparition de certains membres du groupe des Pink Floyd, Syd Barrett, et puis le pianiste après, Richard Wright,
qui meurt en 2008, le 15 septembre 2008 d'un cancer. Bah, voilà, ils sont pas si vieux que ça, mais je pense qu'ils ont bien vécu et voilà, c'est un peu dommage.
Ça veut dire qu'il y aura les trois survivants. En fait.
Alors les trois survivants, je vous le disais, Roger Waters, il va sortir un quatrième album solo en 2017 et Nick Mason va sans doute travailler avec lui. Quant à David Gilmour, est-ce que vous vous rappelez de cette musique qui avait été composée avec le logo musical de la SNCF?
Bien sûr,
mais oui.
Et bah c'est lui qui a fait ça en fait. Il était dans une gare du sud de la France, il entend le logo, il trouve c'est génial. Il l'enregistre avec son iPhone et puis il dit je vais faire une musique. Alors il a demandé l'autorisation à la SNCF, à celui qui l'a composé, et voilà, ça s'appelait Rattle That Lamb.
On pourrait les revoir sur scène ensemble, tous les trois?
Ouais, peut-être. C'est pas sûr, parce qu'il reste quasiment les deux qui se détestent, donc ça va être compliqué. Et puis maintenant, ça fait 3 sur 5, voilà, c'est un peu compliqué.
Merci beaucoup, Eric Jean-Jean. On vous
Merci
retrouve sur RTL2, demain, 16h jusqu'à 19h, pour le drive. Grand studio RTL samedi, il y a qui
C'est un grand studio de Laurent Boyer, exceptionnellement,
bon,
avec de l'humour, voilà. Et moi, je recevrai dimanche soir,
temps, hein.
Pour la première heure de la semaine, j'ai Franck Leboeuf en interview.
Ah,
voilà, c'est dit.
Franck Leboeuf, sportif, footballeur devenu comédien.
Ouais.
À très vite, Eric.
Vous écoutez RTL.